Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Depuis 2018, je sillonne les villages champenois pour partager avec vous mes rencontres inspirantes avec les vigneronnes et les vignerons de Champagne. Je vous invite au cœur du terroir pour découvrir leur parcours de vie, tant professionnel que personnel, et ainsi remettre l'humain au cœur du vin. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec le portrait vigneron de la semaine, qui nous conduit à Mareuil-sur-Aïe, à la rencontre d'Antoine Bouvet. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Antoine.
Bonjour Alexandra.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation une seconde fois au micro. Je suis ravie de pouvoir revenir à ta rencontre quelques années après, puisqu'on s'était rencontrés la première fois en janvier 2019. Donc depuis, il s'est passé pas mal de choses pour toi, j'imagine. Donc tu vas pouvoir nous raconter un peu tout ça. Mais le plus simple pour commencer, c'est sans doute de te laisser la parole pour te présenter de la façon dont tu le souhaites.
Je m'appelle Antoine Bouvet, je suis vigneron à Mareuil-sur-Aïe. Donc j'ai repris le domaine familial de mes grands-parents en 2011. Et voilà, 2023 signe mon 12e millésime. Et il s'est passé pas mal de choses depuis qu'on s'est vu.
Quand on s'était vu, justement, tu avais pour projet de créer tes propres vins. Comment tu te sentais à l'époque et comment tu te sens maintenant dans ce rôle de vigneron ?
Alors déjà à l'époque 2019, moi j'étais encore seul sur le domaine, même s'il y avait ma maman qui était présente. Mais tout ce qui était vigne, vin, commerce, c'est moi qui m'en occupais. Donc depuis, mon grand frère m'a rejoint en 2021. Donc déjà ça a changé un peu au niveau de la structure du domaine. Et aussi on a Julie, une personne qui travaille avec nous tous les jours à plein temps. Donc on est trois à plein temps, donc ce qui est plutôt très agréable. Plus Marine, qui est ma copine, qui travaille aussi quand on en a besoin. Donc ça nous a permis de se développer aussi plus facilement. Voilà, moi en 2011, j'ai vinifié 1000 bouteilles, donc vraiment très peu. En 2019, je devais être aux alentours de 15 000 bouteilles. Et là, ça fait deux millésimes où on est à 30 000 bouteilles. Et puis le fait d'être à plusieurs, ça nous permet de se répartir les tâches, d'être aussi plus efficace et de continuer aussi vraiment la recherche qualitative. J'ai essayé depuis le début de mettre en place, mais plusieurs, c'est un peu plus facile, quoi.
Et l'idée de base que tu avais sur les vins que tu souhaitais créer, est-ce qu'elle a évolué depuis ? J'imagine que tu as fait des expérimentations, il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas trop fonctionné. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours-là ?
Oui, bien sûr. Quand j'ai commencé, j'étais totalement novice dans le milieu du vin. Mon grand-père n'était pas vinificateur. Enfin, il vinifiait un petit peu, mais c'était pas du tout sa passion. Donc, j'ai vraiment appris seul la vinification au fur et à mesure des rencontres, aussi bien chez des vignerons, des vigneronnes, mais des rencontres aussi dans le verre. J'aime le vin, j'aime déguster du vin, j'aime découvrir. Donc au fil des années, je me suis fait ma propre opinion sur les vins que j'aimais, ce qui me touchait le plus. Et bien sûr, c'est une répercussion sur les vins que je fais aujourd'hui. Donc ça, c'est en constante évolution, car chaque année, je découvre de nouvelles choses, de nouvelles personnes qui m'inspirent. Donc tous les ans, c'est un renouveau. Et aussi, bien sûr, avec le millésime, on fait un métier où on dépend de la nature et on se rend bien compte que chaque millésime est différent. Nous, tous les ans, on prend un an aussi, nos vignes aussi. Tout évolue en permanence, mais je trouve que c'est ce qui est le plus beau dans ce qu'on fait aussi. Donc c'est sûr que les vins ont évolué. Aujourd'hui, on se rend bien compte du changement climatique qui est de plus en plus impactant, même si je pense qu'elle l'a toujours été, mais je m'en rends compte en tout cas aujourd'hui plus facilement. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte d'avoir des équilibres corrects aussi bien au niveau de la vigne que dans nos vins. Ça passe par plusieurs procédés qu'on essaye, où là depuis 2018, je fais de plus en plus des élevages longs en barrique. Donc les vins sont pressés, fermentés en barrique, et à l'époque on faisait un an de barrique et mise en bouteille. Aujourd'hui, j'ai encore des barriques de 2019 en cave avec les vins de 2019 dedans, et je trouve ça très intéressant. L'oxydation nous permet de gagner une belle tension et une belle maturité dans nos vins. Pour moi, c'est une piste que je suis en train de prendre depuis quelques années et que je trouve intéressante par rapport au changement climatique, quoi.
Et est-ce que tu te sens plus légitime aujourd'hui dans ton métier de vigneron que tu ne l'étais il y a, je sais pas, 5, 6 ans en arrière?
Alors, plus légitime, c'est toujours quelque chose de compliqué, surtout dans notre région. Et puis, on a de la chance d'être né ici, d'avoir une famille qui a travaillé avant nous et qui nous a permis de continuer ce travail. Donc, on se sent légitime par rapport au travail que l'on fait tous les jours. Et à la vendange, on est toujours content de récolter nos raisins et de se dire, bon, on a quand même travaillé, c'est pas pour rien qu'on a ça. Mais après, on se dit aussi qu'on a eu beaucoup de chance d'être né là. C'est toujours un peu ambivalent.
Tu as sans doute expérimenté pas mal de choses. Quelles ont été les choses qui n'ont pas très bien marché? Et comment as-tu réagi face à l'échec? Quelle est ta façon de rebondir ensuite?
Qui n'ont pas marché, ça arrive tous les ans. Hein. 2021, qui est une année très compliquée au niveau météo, le domaine est 100% certifié bio. Et 2021, je suis toujours resté sur mes petites doses homéopathiques au niveau du cuivre. Et ben, ça a très vite lâché. Et puis une fois que ça lâche, c'est très compliqué de rattraper. Donc bon, ça m'a appris aussi où faut se réinventer tous les ans et prendre en considération la météo. Et des fois de mettre un peu ce qu'on connaît de côté. Et puis de se dire, bon, ben, cette année, on fait différemment. On va mettre des doses un peu plus importantes. On va passer un peu plus fréquemment. Même si ça nous dérange par rapport à nos valeurs, mais faut le faire. Donc c'est très compliqué quand on arrive à la vendange et qu'on se rend compte qu'on perd 70% du domaine parce que les raisins ont été malades et qu'on a beaucoup perdu. Donc c'est assez compliqué sur le coup. J'ai de la chance d'être bien entouré. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont passés pendant les vendanges et c'était génial. Et puis après, quand on goûte les vins qu'on a fait, on se dit bon, bah, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bon quand même. Donc déjà, ça nous rassure. Et après, bah oui, on essaye tous les ans des vinifs, que ça soit des macérations sur des blancs, des macérations un peu plus poussées sur des rouges ou moins poussées. Il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas. Ça, après, ça reste aussi assez personnel, donc c'est compliqué. Il y a eu aussi, depuis 21, alors avant je faisais un peu de sans soufre, depuis 21, on est passé à 100% du domaine en sans soufre. Et 2022, ça a été un peu plus compliqué. On a eu des montées de volatiles dans une partie des vins. Où là aussi, on se remet en question et puis on réfléchit, on essaye de trouver des solutions tout en continuant à défendre nos valeurs. Et voilà, on essaye de nouvelles choses et c'est ce qui est super intéressant aussi dans notre métier, quoi.
Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont marqué ton parcours ces dernières années, des personnes qui t'ont fort inspiré sur certains points clés de la vinif ou côté vigne?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai goûté beaucoup de vins à l'étranger ces dernières années, essentiellement en Allemagne, où vraiment je suis tombé amoureux des vins, où ça m'a beaucoup inspiré, justement, sur peut-être des maturités un peu plus précoces par rapport à ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui. Et après, j'ai rencontré, certains vignerons dans le Jura. J'ai rencontré François Rousset-Martin, qui est devenu un ami. Et où, t'arrives dans une petite cave et puis il te fait goûter des vins qui sont en barrique depuis plus de 10 ans. Et puis, tu trouves ça assez incroyable. Et c'est joli. Et, c'est là que tu vois la magie aussi bien de la vigne, mais aussi la magie du vin, à pouvoir les laisser aussi longtemps. Et ça passe un cap parce que le temps joue son rôle, mais c'est très intéressant. Donc tout ça, bien sûr, ça m'a inspiré, et puis plein d'autres que j'ai la chance de rencontrer toute l'année, des personnes qui passent aussi bien au domaine ou moi qui vais rendre visite à d'autres personnes. On est tout le temps inspiré, quoi.
Et là, tu fais donc ton entrée dans le groupe des Pieds des Vins. Donc comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que ça te fait d'intégrer un collectif? Comment tu te sens évoluer dans ce groupe-là?
En effet, je rentre dans le groupe. Alors la plupart des personnes sont des personnes que je connais bien avant, où il y a toujours eu un attachement aussi bien au point de vue personnel que professionnel avec ces personnes. Moi, je connaissais pas tout le monde, mais quand même une grosse partie. Après, la Champagne, ça reste grand et petit à la fois. On se connaît un peu tous. Dès qu'on a la même vision, aussi bien de la vigne que du vin, on a la chance de tous se côtoyer, d'échanger facilement. Et du coup, ça s'est fait un petit peu tout seul. Ça fait quelques années que j'y pensais, mais je pense que j'étais pas prêt sur un plan personnel. Parce qu'appartenir à un groupe, c'est aussi quelque chose, quoi. On doit échanger facilement. Ça demande aussi un petit peu de temps et d'énergie. Aujourd'hui, aussi bien sur le point du domaine, le fait d'être à plusieurs, ça me permet de me libérer du temps. Puis d'un point de vue personnel, je pense que j'ai un peu plus confiance en moi aujourd'hui, ce qui me permet aussi On revient sur le fait de la légitimité d'être vigneron, où je pense qu'aujourd'hui, je me sens un peu plus légitime.
Qu'est-ce qui a fait que tu as gagné en confiance en toi ?
Déjà, les années qui passent. Et j'ai fait un travail aussi sur moi personnel. Et s'entourer des bonnes personnes, je pense que c'est aussi très important. Et ces personnes-là te montrent que ce que tu fais, c'est bien. Et c'est assez important, pour moi en tout cas.
Et est-ce que tu as toujours des facilités à travailler en famille ? Avec le recul, comment tu perçois ça, le travail en famille ?
Alors ouais, le travail en famille, il y a autant de positifs que de négatifs, je pense. Côté positif, bien sûr, c'est que tout le monde est impliqué à 200%. Mais le côté négatif, c'est que des fois, justement, on est trop impliqué à 200% et que ça prend un peu le dessus, surtout aussi bien sur notre vie privée, familiale, que sur la vie professionnelle, quoi.
Et quel conseil tu pourrais donner à des jeunes générations qui se posent les mêmes questions que tu te posais en 2011, avec le recul que tu as aujourd'hui ?
Déjà, faut pas avoir peur d'aller voir les vignerons, les vigneronnes du coin. Tout le monde est quand même plutôt ouvert. Et puis si quelqu'un dit non, faut pas avoir peur d'aller voir une autre personne. Et puis surtout, faut apprendre à se faire confiance. Faut continuer aussi à découvrir tout le temps, à lire, à goûter des vins, à échanger. C'est aussi ça la force d'un groupe, je trouve. C'est que en groupe, c'est plus facile d'échanger, de goûter aussi les vins des autres, de se dire ce qu'on a réussi, mais surtout ce qu'on a raté, parce que c'est important de se le dire. Et puis surtout faire les choses qui sont cohérentes avec ce que nous, on croit. Et pas faire des choses par obligation, parce qu'aujourd'hui, ça marche, donc faut le faire. Faut faire les choses parce qu'on aime ce qu'on fait.
Est-ce que tu penses, toi, qu'au démarrage, tu n'étais pas forcément encore 100% aligné avec tes valeurs ?
Ah oui, ça c'est évident. J'étais pas encore aligné avec mes valeurs parce que je pense que déjà, je suis arrivé à 18 ans. Enfin, après, je pense qu'il n'y a pas d'âge, mais je me cherchais encore beaucoup. Je ne savais pas où j'allais. Il faut se construire aussi un peu seul. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça met beaucoup de temps. Mais voilà, le temps, faut le prendre.
Quel est ton rapport au temps, justement ?
Ça c'est pareil, ça a beaucoup évolué, mais c'est normal parce que quand on commence, on a envie d'avoir le résultat assez rapidement parce que on est excité, on met vraiment beaucoup de choses en place et c'est le fruit de notre travail et on a envie d'avoir le résultat tout de suite, mais ça marche pas comme ça dans notre métier et c'est ce qui est beau et aujourd'hui c'est avec le temps je le prends et des fois voilà, j'ai pas peur de me dire ces cuvées-là, elles vont dormir 8-10 ans en cave et c'est des choses que je goûterai dans 8-10 ans, mais en attendant, il se passera tellement de choses qu'en fait, ça va passer très vite, quoi.
Et quels sont tes futurs projets ? Les choses que tu aimerais expérimenter, mettre en place ?
Alors, il y a beaucoup de projets qui se mettent en place, aussi bien sur le domaine où on essaie toujours d'aller un peu plus loin dans nos pratiques essentiellement viticoles. Donc là, ça fait quelques années qu'on fait tout ce qui est tressage. Là, on évolue un peu dessus à essayer de passer une partie en palissage haut. Après, on travaille depuis 2015 sur les semis d'engrais verts et on continue, on évolue dessus. Et surtout, là, ça va faire un an ou deux ans qu'on intègre réellement les animaux sur le domaine. Donc ça, c'était un projet qui me tenait à cœur. Donc aujourd'hui, on a un hectare du domaine qui est travaillé avec un cheval. À côté, on a 5 petits cochons au domaine, des petits cochons nains qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui travaillent dans les vignes donc l'hiver, qui nous permet de labourer un peu des vignes qui sont difficiles pour nous d'accès. On en est très contents. Et après, on a monté aussi un projet collectif sur Bisseuil, sur la parcelle des Rochefort, où justement, il y a Étienne Calsac aussi, qui est mon voisin, et Hélène Charbot, et deux autres vignerons. On a clôturé 5 hectares de vignes, et puis on a fait venir un peu moins de 50 moutons, qui sont venus s'occuper de nos vignes pour tondre. Donc voilà, ça, c'est les vrais projets qu'on a sur le domaine, c'est d'impliquer de plus en plus les animaux sur le domaine. On continue d'implanter des arbres un peu tous les ans donc sur l'aspect agroforesterie et toujours de s'améliorer au niveau de la vie de nos vignes, quoi. Nous, ce qu'on cherche essentiellement, c'est vraiment un équilibre. Et aussi, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui de consommation et de surconsommation, de surproduction, de revenir un peu à l'essentiel qui est de toucher un petit peu à tout pour retrouver un équilibre plutôt naturel, quoi.
Et est-ce que tu penses que tu seras vigneron toute ta vie ?
Je l'espère, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Il n'y a pas vraiment de fin, en fait, dans ce métier, parce que Tous les ans, c'est différent. Et on a tellement de possibilités que je pense que je m'en lasserai jamais. En tout cas, je l'espère.
Et comment tu vois la Champagne évoluer dans les prochaines années face au dérèglement climatique qu'on connaît ?
C'est assez compliqué parce qu'on est tellement d'acteurs et d'actrices différents dans le secteur qu'on ne peut pas parler pour tout le monde. J'ai quand même bon espoir de voir une évolution au niveau des pratiques, en tout cas culturelles, et ça évolue quand même. Et j'espère en tout cas qu'il y aura aussi de plus en plus de projets collectifs parce que je pense que c'est un enjeu pour l'environnement et je pense que vraiment le collectif aura un impact plus que positif sur l'avenir de la Champagne.
Et même si c'est parfois cloisonnant, certains ont tendance à te mettre dans la catégorie des vins nature. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que c'est quelque chose vers quoi tu tends ? Et quelle est ta définition surtout d'un vin nature, puisque c'est une définition qui est à mon sens propre à chacun, vu que les contours sont un peu flous par rapport à ça.
J'ai toujours eu du mal à mettre les choses dans des cases parce que c'est quelque chose qui me gêne. Vin nature, je trouve que le mot nature n'est pas forcément cohérent par rapport à ce qu'on fait, parce que on travaille la vigne, une vigne qu'on a implantée, qui ne pousse pas naturellement déjà ici. C'est dans des rangs, c'est avec des fils pour les palisser. Je préfère dire on essaye de faire des vins propres dans le sens où on essaye d'être le plus propre possible, aussi bien au niveau du vignoble qu'au niveau des vins. Mais j'essaye de ne pas m'enfermer dans quelque chose. Et si j'ai besoin d'intervenir, j'interviendrai. Parce que pour moi, c'est important. Derrière, on travaille des années dans les vignes. Je suis pas tout seul. C'est aussi le travail des personnes qui travaillent avec moi. Et je peux pas non plus bafouer leur travail pour certaines convictions. Après, le vin nature, oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un vin qui est un peu à la mode, enfin, un mot surtout qui est à la mode et qui fait vendre. Ben, un vin nature, pour moi, c'est un vin qu'on prend plaisir à boire et où il y a une vraie réflexion derrière au niveau de la personne qui va travailler les vignes et le vin, qui cherche à avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, qui vient pas masquer son vin, où il n'y a pas d'intrants ou très peu, parce que faut pas être non plus à l'encontre de tout, parce qu'il y a des années qui sont plus compliquées que d'autres, et je préfère que quelqu'un soit honnête. En fait, je pense que c'est ça aussi, c'est un vin qui est honnête, quoi. C'est un vin où, ben voilà, cette année c'était un peu plus compliqué, ben j'ai dû mettre un petit gramme de soufre. Ben voilà, est-ce que c'est grave ? Personnellement, pour moi, non, ça va pas me déranger. Il n'y a pas de pratique automatique, quoi. C'est ça, pour moi, un vin nature.
Et qu'est-ce que pense ta mère de ce que tu fais aujourd'hui ?
Je pense que tout le monde est quand même assez content, parce qu'on travaille tous ensemble aussi, je suis pas tout seul. Bon, il y a toujours des petites zones de friction, parce qu'il y a la peur du risque, et on nous inculte ça depuis qu'on est jeune, il faut pas prendre de risques dans tout ce qu'on fait, aussi bien à l'école que autre. Après, je pense pas prendre trop de risques, c'est juste que je suis ce que j'ai envie de faire. Et voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, elle le comprend en tout cas. Donc c'est essentiel.
Est-ce que tu penses que t'es plutôt impulsif ou réfléchi ?
Alors je pense que quand j'ai commencé, j'étais très impulsif parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses à mettre en place et j'avais tendance à vouloir le faire tout de suite, des fois un peu trop rapidement, sans réfléchir. Aujourd'hui, je pense que je réfléchis un petit peu plus. Après, je garde quand même toujours ce côté impulsif parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est que pour moi, c'est déjà réfléchi et qu'il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Et que dans tous les cas, même si ça marche pas, je vais le faire parce que sinon, ça va me rester dans la tête et je vais m'en vouloir. Et le fait aussi d'être à plusieurs aujourd'hui sur le domaine, mon frère a une formation d'ingénieur, donc c'est aussi une autre façon de réfléchir et de voir les choses. Donc ça permet aussi d'équilibrer sur certains points où moi je suis un peu plus laxiste aussi, quoi.
Et quelle est la dernière chose que tu aies faite pour la première fois finalement ? Quelle est la dernière découverte ou la dernière action que tu as menée et que tu n'avais jamais menée auparavant ?
Et ben là on est en train de surgreffer une parcelle de vigne, donc on fait un changement de cépage. Donc voilà, on va suivre ça au cours de cette année, voir si c'est réellement intéressant pour nous en tout cas. Donc le but du surgreffage, c'est de garder le porte-greffe qui est la partie racinaire du pied de vigne et de venir changer le porte-greffe, donc ce qui va correspondre au cépage. Au vu du changement climatique, on se rend compte qu'il y a certains secteurs où nous sommes qui sont plus cohérents avec le climat actuel. Donc là, on met en place sur une toute petite vigne pour vraiment essayer. On va changer le cépage qui est un pinot noir sur du pinot blanc. Donc là, c'est plus aussi personnel pour essayer un peu de travailler sur du pinot blanc. Mais le but, c'est certains secteurs qui sont assez gélifs, qui sont aujourd'hui en chardonnay, ça serait de pouvoir les changer et mettre des cépages un peu plus tardifs qui seraient moins sensibles au gel, quoi.
Quel est ton rapport justement aux cépages un peu oubliés de la Champagne?
Alors, je pense que c'est des cépages qui ont été oubliés tout simplement parce qu'ils ne correspondaient pas à une attente de l'époque, qui, je pense, aujourd'hui correspond plus à nos attentes actuelles. Parce qu'on voit que c'est des cépages. Alors pour certains, j'ai pas un savoir énorme dessus, mais je pense qu'il y a des cépages qui sont un petit peu plus rustiques, donc qui seraient intéressants aussi par rapport aux maladies. Il y avait des cépages qui étaient assez tardifs, comme le petit mélier ou l'arbane, qui seraient intéressants sur des secteurs par exemple, très solaires, plein sud, qui nous permettraient d'avoir des équilibres plus cohérents avec ce qu'on fait. On fait du champagne, on fait de la bulle. Et il faut qu'on garde aussi voilà, cet esprit, avoir des belles acidités, des beaux équilibres qui nous permettent derrière de pouvoir faire des bulles, quoi.
Et avant de conclure, le vin étant synonyme de partage, si tu pouvais imaginer ton dîner parfait, qui inviterais-tu à ta table?
Alors il y a un dessinateur qui fait des bandes dessinées qui s'appelle Étienne Davodeau, que j'aime beaucoup, que j'avais découvert via Les Ignorants, du coup qui avait fait une belle entrée dans le monde viticole, mais derrière il fait énormément de BD assez engagées, aussi bien au niveau social que écologique, et c'est toujours très intéressant, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je serais très heureux de le rencontrer. Après, des chefs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs que je connais pas forcément leur cuisine parce que c'est toujours compliqué de pouvoir aller partout. Et il y a des chefs comme Bruno Verjus que j'aimerais beaucoup rencontrer, Alain Passard. Et ouais, un dîner avec eux, ça peut être quand même bien sympa, quoi.
Merci beaucoup, je te souhaite bonne continuation.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast @winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation. D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite !